Avec Sono Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve aujourd'hui pour la première de deux émissions que nous avons enregistrées ici à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bukavu, où depuis 20 ans maintenant, une structure de santé exceptionnelle a vu le jour dans la capitale du Sud Kivu. Ici, le terme exceptionnel n'a rien à voir avec la performance ou le spectaculaire, non. L'hôpital de référence de Panzi, qui nous fait l'honneur d'accueillir RFI, est exceptionnel par le caractère remarquable de l'offre de soins offerte ici à celles qui viennent, et elles ont été près de 55 000 en deux décennies qui s'y présentent lorsqu'elles sont encore capables de marcher pour soigner l'indicible, l'inconcevable, l'abomination dont sont capables les hommes sur le corps des femmes. L'hôpital de Panzi, c'est à la base un homme, prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, gynécologue et médecin directeur qui parcourt le monde inlassablement pour dénoncer l'impunité des auteurs de violences sexuelles, réclamer justice, décrire ce que beaucoup ne veulent ni voir ni entendre. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à celles et ceux qui travaillent à ses côtés pour reconstruire le corps des femmes, corps et sexe blessés, saccagés par la brutalité, soldats, miliciens et aussi villageois qui violent pour humilier et tenter d'anéantir des filles, des femmes, des mères et au-delà leurs fils, leurs époux, leurs pères, soumettre toute la communauté. Face à la barbarie, l'équipe de Panzi accueille, écoute, opère, soigne. Exercice médical au service de la vie et de la dignité, lutte quotidienne contre ces violences sexuelles associées au conflit qui touchent, au-delà de la RDC, les femmes de République centrafricaine, d'Irak, de Colombie ou encore de Syrie. Soigner le corps des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC avec nous, docteur Nima Rukungu, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin résidente en gynécologie, experte dans la réplication du modèle Panzi, puisqu'aujourd'hui d'autres structures de soins s'inspirent de cette expérience. Docteur Désiré Alumeti Mouniali, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chirurgien pédiatre, médecin légiste au sein de l'hôpital de référence de Panzi. Avec nous, Séraphine Nkwanine, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes infirmière ici à l'hôpital de Panzi.
Priorité santé sur RFI.
Alors, une première question que j'adresse à chacun d'entre vous. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez rejoint cet hôpital de Panzi, intégré l'équipe du docteur Denis Mukwege? D'abord, à vous cette question, Madame Séraphine Kwanine.
Ça fait plus de 10 ans que je travaille ici à l'hôpital de Panzi. Et mon travail est d'assister les services médicaux et aussi d'assurer la guérison aux malades. Je peux les assister psychologiquement si nécessaire, puisque soigner un corps blessé, soigner une victime de violences sexuelles, ça demande l'assistance médicale et aussi le suivi psychologique aussi, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment traumatisé, c'est quelqu'un qui est blessé, elle est anxieuse. Vous pouvez la trouver même dans un état de peur. Et là, cela nous amène à les assister comme il faut. Ça fait plus de 10 ans que je travaille ici.
Avant, vous étiez ailleurs?
Oui, avant, j'étais
ailleurs. Qu'est-ce que vous avez connu de différent ici?
Oui, il y a une très grande différence. Moi, je travaille dans le programme de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ce que j'ai trouvé de différence, avant, je ne savais pas qu'une femme pouvait dévoiler son secret, dire qu'on m'a violée. Souvent, quand on viole quelqu'un, c'est honteux, il cache. Il ne peut pas dire que j'étais violée, il cache. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que les femmes, les jeunes filles arrivaient, même les hommes arrivaient, et ils étaient prêts à dévoiler les secrets. Dire que j'ai eu tel problème, et il n'hésitera pas même à montrer son corps. Pas seulement pour les violences sexuelles, mais même aussi pour d'autres pathologies gynécologiques. Quand je suis arrivée ici à Panzi, j'ai vu les femmes avec fistules qui faisaient couler les urines tout le temps. Ah, j'ai compris que Vraiment, c'est ça l'hôpital de Panzi. C'est que je ne voyais pas là où j'étais avant. Alors qu'il y avait des malades qui avaient de tels problèmes, mais qui ne les dévoilaient pas. Mais quand nous sommes arrivés ici, j'ai trouvé beaucoup de cas qu'on considère comme des malédictions, mais alors que ce ne sont pas des malédictions. Ici, on les soigne très bien.
Docteur Nima Rukungu, je vais vous appeler docteur Néné parce qu'ici à l'hôpital de Panzi, tout le monde vous appelle ainsi, docteur Néné. Comment est-ce que vous avez rejoint l'hôpital de Panzi?
Bon, en fait, j'ai rejoint l'hôpital de Panzi, c'était plus un peu par curiosité ou par recherche personnelle. Et c'est là où j'ai premièrement, en fait, vu les survivants des violences sexuelles, des femmes. Et il y a vraiment des incidents qui m'avaient vraiment marqué à ce moment-là. Et donc, en venant à Panzi, c'était plus pour dire, je veux être utile pour les femmes. Je viens pour 6 mois, je prends un stage. Je suis restée, en fait. Après, je n'ai pas pu partir.
Docteur Désirée Alumetti, la fin de ce tour de table, votre engagement ici, vous lui donnez quel sens?
Au fait, mon engagement ici, c'est que je suis souvent meurtri en voyant tout ce qui se passe chez les enfants violés de moins de 5 ans. Étant congolais, médecin légiste, celui qui doit récolter les preuves médico-légales, mon sens ici à l'hôpital, c'est de récolter correctement ces preuves pour aider la justice à bien dire la loi. J'ai eu l'opportunité d'être médecin dans des centres et hôpitaux généraux, donc à l'hôpital de Bagira où j'ai exercé comme médecin directeur. Et puis à l'hôpital de Luire où j'étais chef de projet d'un grand projet de la coopération belge où j'ai pu décrocher ma bourse d'études pour aller faire ma spécialisation à Dakar où j'ai fait ma chirurgie pédiatrique et puis ma médecine légale. Et au retour dans mon pays, parce que je savais que je serais utile dans mon pays, je suis retourné ici à Bukavu. J'ai eu cette chance de croiser un homme qui s'appelle Denis Mukwege et qui, dans sa philosophie, il mime sur l'excellence des soins. Et à ce moment-là, avec son programme, le programme de prise en charge des victimes des viols et violences sexuelles, il avait besoin d'un médecin légiste. C'est à ce moment-là que je l'ai croisé. Et me voilà aujourd'hui à l'hôpital. Et donc, je suis arrivé ici ayant déjà mon background de médecin légiste. Je pense que c'est ce background qui a fait assez que j'intègre l'hôpital de Panzi parce que c'est un hôpital d'excellence où tout celui qui a une expertise est le bienvenu. Voilà comment je me suis retrouvé ici.
Vu l'étendue des ravages sur le corps et sur l'organisme des femmes, eh bien la réponse doit être à la hauteur, pas simplement recoudre, pas simplement se débarrasser des infections, mais bien prendre en charge la femme dans toute sa globalité, globale, holistique. Tout ça, ce ne sont pas des mots en l'air ici. Docteur Néné, comment vous pourriez expliquer à nos auditeurs qui trouve peut-être ce mot holistique un petit peu compliqué, un petit peu abstrait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot?
C'est l'humanité même, en fait, ce mot. C'est de prendre une personne, pas démembrer cette personne-là. Quand je vois Caroline, par exemple, et que je me dis, Caroline, ce n'est pas la Caroline physique que je vois seulement. Il y a tout ce qui est physique, il y a toute la partie, ce qu'elle a comme background, par exemple, qu'est-ce qu'elle a comme expérience, qu'est-ce qu'elle a comme ressenti, quelles sont les émotions. Donc, en fait, quand on parle de la question holistique, la prise en charge holistique, c'est-à-dire qu'on va au-delà, en fait, de ce que nous, comme médecins, on pouvait voir. Même la blessure va être impactée par d'autres choses, par toute la révolte qu'elle peut ressentir, par toute la honte qu'elle peut ressentir. On avait, en fait, des femmes qui arrivaient, elle a mal au ventre, on a une infection, on soigne l'infection, je fais le contrôle une semaine après, l'infection est partie. Mais elle continue à dire, j'ai quand même mal au ventre. Est-ce que je fais quoi? Je fais pas de la magie, en fait. Sur le plan médical, je ne trouve plus rien. Mais il y a autre chose. Il y a toute la partie mentale. Il y a toute la partie, docteur Alumetti vient de dire qu'on n'est pas seulement des simples médecins. En fait, ça, c'est une particularité de la prise en charge holistique. C'est qu'au-delà de la médecine, nous faisons tout ce qui est médico-légal. Donc, on peut l'aider à faire le lien, à lui donner encore l'espoir pour dire « tu as été une victime ». Et on doit en fait punir ceux qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ce sens-là? Tu es capable d'être aimé et nous, on t'aime pour ça. Et donc, C'est tout ça qu'englobe le terme holistique. En fait, moi, j'aime vraiment ce terme, en fait, parce que il comprend, on n'est pas des simples prestataires de santé, des simples psychologues. Chacun dans ce domaine-là, même le juriste, même le policier, il sait directement réfléchir. Quand il est dans le modèle holistique, un policier, il sait dire, OK, est-ce que tu es parti à l'hôpital? C'est qu'un autre policier ne va pas dire. Est-ce que tu as pu voir un psychologue? Tu as un appui quelconque? Quelqu'un qui est dans le modèle holistique, il voit grand, il voit l'être dans son entièreté, pas seulement le physique, mais au-delà même du physique.
Alors justement, on est venu ici enregistrer cette émission au cœur de l'hôpital, petite ville dans la ville. On va découvrir ensemble ces différents services avec Daniel Moussaka pour nous guider. Daniel Moussaka, nous sommes devant l'entrée de l'hôpital de Pendi. On a passé la grille, les fils de fer barbelés. Et vous allez nous servir de guide, hein, Daniel Moussaka, vous qui êtes chargé de la communication ici à l'hôpital de Pendi. Vous allez nous servir de guide. On va voir plusieurs bâtiments. Tout est en rez-de-chaussée avec, en fonction des lieux, différents soins, différentes prises en charge, différents services.
Voilà donc, bienvenue à l'hôpital de Pendi.
Quand on rentre juste à gauche, il y a un poste de contrôle pour la maladie à virus Ebola. Depuis quand est-ce que vous avez mis cette mesure de prévention, justement, pour toute personne qui pénètre dans l'hôpital ?
La surveillance pour le virus à Ebola date déjà il y a 2 mois, parce que normalement, nous avons été alertés au niveau de Bukavu après avoir détecté le virus Ebola à Goma, qui est la province voisine de Bukavu, et puis dans la province du Sud-Kivu. Ici où nous sommes, on a détecté aussi quelques cas suspects au niveau de Mwenga. C'est à quelques 130 km d'ici à Bukavu. Alors on a dit que tous les hôpitaux doivent avoir au moins l'isoloir, l'isolement pour le cas suspect. Et c'est pourquoi on est en train de juste prendre la température. Pour le gens suspect, on peut le mettre directement dans l'isoloir avant le traitement. Ici, nous sommes au niveau du couloir principal de l'hôpital, bien sûr avec la guérite qui sert de checking. Et après la guérite, après avoir traversé la guérite que vous voyez ici à côté, nous sommes en présence d'un couloir principal. Parce que l'hôpital est subdivisé en deux. Nous avons la partie gauche qui est la partie beaucoup plus laboratoire, les examens du labo, la pharmacie. Et la partie droite, c'est la partie où nous avons donc l'hospitalisation. On va passer du côté labo pour descendre jusqu'à là où se trouve le volet femmes victimes de viol et violences sexuelles.
Alors c'est précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission, soigner le corps des femmes. Est-ce qu'on peut juste voir les lieux où sont soignés le corps de ces femmes? Et dans un deuxième temps, eh bien, nous irons en salle d'opération pour comprendre justement comment la chirurgie ici est pratiquée.
On avance, voilà, donc moi je vous disais, ici nous avons le bloc pavillon 4, qui est la pharmacie, le cabinet de consultation, les infectiologies, la cardiologie, la chirurgie générale, c'est ce bloc ici. Nous avons l'autre bloc, la radio, dentisterie, laboratoire, anapath, l'anatomie pathologique.
Et pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, ben je tiens à dire que autour de nous, donc les bâtiments sont en briques et en pierre, et qu'il y a des fleurs partout. Hein, il y a des rosiers, il y a des arômes, il y a des marguerites. C'est fleuri, c'est vert. C'est pas du tout un endroit où on sent la souffrance quand on s'y promène. Il y a des grands arbres qui bordent comme un parc. C'est aussi important de donner cette image pour les personnes qui sont reçues ici, qu'elles se sentent chez elles. Ça sent l'hospitalité.
Dans le combat du docteur Mukwege, il faut également protéger la nature. C'est pourquoi vous trouvez toujours partout, il y a des fleurs, partout il y a des arbres. Je dirais que vous avez visité Bukavu.
Est-ce que vous diriez que, justement, on ressent quand on se promène dans les rues de Bukavu, surtout par cette saison des pluies, une certaine désolation, est-ce que vous diriez qu'ici c'est un petit peu un havre de paix?
Bien sûr, c'est ce que nous appelons un couloir humanitaire. C'est un village. C'est un village qui redonne l'espoir. Parce que d'abord, la prise en charge des femmes qui ont été jetées par leur mari, qui ont subi des atrocités, doivent se retrouver dans un village. On a préféré garder à chaque coin et recoin de l'hôpital des herbes et aussi des arbres.
Donc là, on rentre dans une salle où il y a des rangées, 4 rangées de pratiquement 10 lits. Et puis quelques-uns de ces lits sont occupés par des femmes, avec des gouttes à gouttes pour certaines d'entre elles, des femmes qui seront opérées prochainement.
Bien sûr, c'est ici où nous les gardons, parce que nous avons aussi deux maisons de transit. Mais nous essayons de choisir les femmes qui sont préparées pendant la semaine pour être opérées. Alors, elles doivent rester ici pour être surveillées, pour aussi suivre les conseils médicaux et également être préparées donc moralement et physiquement pour subir les interventions chirurgicales.
Alors on marche, et là, juste à notre droite, il y a la salle dédiée, la halle dédiée au déjeuner. Il y a les femmes qui sont en train de déjeuner. C'est dans l'espace qui est également dédié aux activités d'ergothérapie, comme la couture. Et au bout du parc, au bout du local, à notre gauche, il y a eu la lessive, donc il y a le linge qui sèche. Et au fond, eh bien, c'est la cuisine, avec des mamans qui sont en train de cuisiner.
Alors bien sûr, comme je disais, la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles n'est pas seulement le médical, parce que l'alimentation également contribue beaucoup plus pour la santé. Et donc, pour les femmes qui nous viennent du village, il y a certaines qui arrivent dans un état de malnutrition et normalement, elles doivent être soumises à un régime alimentaire.
On va voir ce qui est en train de se préparer alors. Hein. Donc, il y a le foyer à l'intérieur du local, il y a le feu, hein. Il y a d'énormes marmites qui sont en train de cuire. Bonjour madame. Djembo, c'est ça? Djembo, c'est ça. Donc là, on est en train de préparer quoi exactement?
Aujourd'hui, c'est les foufous avec la viande et les légumes.
C'est un régime qui est spécial pour augmenter le sang et amener la force.
C'est très riche en fer, c'est
ouais,
ça?
C'est très riche en fer.
Voilà. Et c'est servi avec de la viande, en fait?
De la viande, bien sûr. Voilà, donc les femmes qui viennent pour aller... Et pour prendre à manger, peut-être c'est de manger en groupe. Voilà, maman.
Visite en compagnie de Daniel Moussaka. On va voir un peu plus tard au cours de cette émission que cette expérience donc est dupliquée. Hein. Et c'est d'ailleurs vous, docteur Néné, qui travaillez sur cette reproduction du modèle de Panzi sur d'autres sites, dans d'autres pays. Et il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important. Ce sont les sortes d'équipes mobiles qui vont justement dans la forêt, au-delà bien sûr des seules limites de cet hôpital, pour aller au plus près de la communauté et parfois ramener des patientes.
C'est ça, en fait, la réalité. C'est que, au-delà de la prise en charge au niveau de l'hôpital, telle qu'on l'a décrite, il y a l'équipe mobile, déjà. On a une équipe mobile médicale et chirurgicale. Donc, on a deux types d'équipes mobiles qui font que, d'abord, ça nous a permis de rapprocher encore davantage les soins à côté vraiment des malades, donc des bénéficiaires ou des survivantes, et plus ou moins désengorger aussi l'hôpital. Parfois, là, on n'a pas un hôpital, on transporte nous-mêmes un lit d'examen et tout le matériel nécessaire pour pouvoir vraiment rapprocher les soins auprès des malades.
Mais ça doit quand même poser des problèmes de sécurité assez importants.
Ça, c'est un gros défi. C'est parmi les défis que nous avons parce que les déplacements, déjà, on reste quand même dans des régions qui sont assez instables sur le plan sécuritaire. Et donc, les appels aussi en termes d'équipe mobile, parfois, c'est des appels en période d'urgence où on dit il y a une crise humanitaire, il y a des viols massifs. Et donc, parfois, on se fait accompagner par d'autres organisations humanitaires. Parfois, on se fait accompagner par la MONUSCO. On a eu quelques fois, mais généralement, ils viennent souvent en retard. Alors que nous, on a un gros défi, c'est les 72 heures aussi pour la prise en charge médicale.
Pour 72 heures pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. On pense bien sûr au VIH-SIDA. Au-delà de 72 heures, on va changer de protocole, mais dans les premières 72 heures, on peut tout simplement bloquer l'entrée du virus.
Exactement. Donc, bloquer l'entrée du virus, empêcher une grossesse de survenir et de prévenir ces autres infections sexuellement transmissibles. Donc, à côté de cela, maintenant, on a toute la partie aussi demande externe qui est là. Donc, ce besoin de transmettre l'expérience qu'on a reçue qui va nous permettre de dire est-ce qu'on peut répliquer ce modèle ailleurs qu'au niveau de Panzi. C'est comme ça qu'on a eu des demandes, étant donné qu'on a pratiquement plus ou moins les mêmes contextes, notamment en Afrique, notamment dans les pays qui ont vécu en fait des conflits tels que l'Irak, par exemple, où le viol vraiment a été utilisé comme une arme de guerre pour mater les populations.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le professeur Mukwege a partagé son prix Nobel avec une ressortissante de ce territoire irakien, parce qu'ils avaient, elle était la femme victime survivante résiliente, et lui, il était celui qui donne l'aide, qui tend la main.
Exactement. C'est même dans ce sens-là qu'il y a eu cette demande. Et Je crois que vraiment, au final, on s'est rendu compte que les contextes, même parfois étant différents, mais le corps de la femme subit les mêmes atrocités et les conséquences sont les mêmes.
Et ici à Pandi, 100 000 femmes soignées, près de la moitié victimes de violences sexuelles. Justement, docteur Aloumeti, sur cette différence qu'on fait entre le terme de victime et de survivante, pour vous, c'est quoi le sens de ces mots ?
En fait, je pense que c'est profond. Et pour y arriver, ça demande quand même du temps. Et donc, quand elles arrivent chez nous, ici à l'hôpital, on prend l'aspect médical, comme on l'a dit, on trouve que la honte persiste. Et une femme honteuse, elle perd toutes ses capacités pour s'intégrer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'accompagner. Il faut l'aider à surmonter, n'est-ce pas, cette douleur. Il faut l'aider à, je ne dis pas accepter, mais arriver à comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Mais en passant par tout ce que nous adoptons comme thérapie, elles sortent survivantes, fortes, et c'est ce que nous appelons des femmes fortes.
Et on va donner la parole à l'une d'entre elles. Pandi est devenue en quelque sorte depuis quelques mois sa maison. On rencontre Thérèse, elle a 71 ans et elle a subi une opération pour une atteinte gynécologique grave.
Moi, le problème que j'avais, c'est que l'un de mes organes avait quitté sa place normale, un prolapsus. Et je souffrais beaucoup, et ça depuis 10 ans. Et j'allais dans tous les hôpitaux de la région, partout, et je n'arrivais pas à être guérie. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici.
Vous souffriez donc d'un prolapsus ? Vous avez eu combien d'enfants ?
J'ai mis au monde 14 enfants, mais seuls 6 d'entre eux sont encore vivants. J'ai perdu beaucoup de bébés. 14 grossesses, mais seulement 6 accouchements et 8 fausses couches.
Racontez-moi votre opération.
Je ne me souviens pas de tout, mais je me suis retrouvée sur le lit. Je ne sais pas vraiment si on a coupé quelque chose ou si on a fait rentrer la grosseur. Mais je me suis sentie bien une fois sortie du bloc, parce que je souffrais, j'avais besoin d'un bâton pour marcher. J'étais incapable de m'allonger sur un lit, je ne pouvais plus rien faire. Mais maintenant, je me sens comme une jeune fille, et j'ai donné mon bâton aux agents d'entretien pour qu'ils en fassent un balai. Parce que ce bâton, je ne veux plus le voir.
Est-ce que vous pensez qu'on vous a si mal soigné aussi longtemps, parce que ça touchait le sexe, parce que ça touchait l'intimité de la femme, que ça touche ce qu'il y a entre nos jambes, et que les médecins, les hommes, ont du mal à soigner cette partie de nos corps.
Je ne peux pas l'affirmer. J'avais l'espoir que cela pourrait s'arranger. On m'avait dit au centre de santé que la seule personne qui peut t'aider, c'est le docteur Mukwege. Et je suis venue ici avec l'espoir d'être guérie chez le docteur Mukwege. Les mamans chéries ont vu que c'était l'organe qui sortait. J'ai été opérée en urgence et je me sens bien, très bien. Et je dis merci.
Nous nous retrouvons toujours en compagnie des soignants de l'hôpital de Pandi, ici à Bukavu, une structure dirigée par le docteur Denis Mukwege, qui depuis 20 ans prend en charge les femmes victimes de violences sexuelles avec toute son équipe. Séraphine Kouaniné, infirmière, comment est-ce que se déroule l'admission de ces femmes ? Comment est-ce que vous les orientez vers tel ou tel service ?
Les femmes peuvent venir dans n'importe quel pilier. Il y a des fois où ils peuvent passer par les piliers médicaux. Vient directement au niveau de l'hôpital, sans pour autant passer par les cliniques juridiques ou dans d'autres services. Il arrive. Il y a d'autres qui viennent, passent d'abord par la clinique juridique, puis on l'oriente jusqu'ici. Il y a d'autres qui nous arrivent, ils viennent eux-mêmes, les associations nous les envoient ici. Mais s'ils nous arrivent dans plus de 70 heures, c'est un peu difficile puisqu'il y a déjà, il peut y avoir déjà des infections. S'il y a risque de grossesse, la grossesse est déjà là, il n'y a plus moyen de l'arrêter.
J'aimerais qu'on reste centré sur la médecine du corps pour cette émission. Docteur Néné, justement, c'est ces pathologies directement liées au viol, aux exactions, est-ce que vous pouvez nous décrire ces cas que vous prenez en charge, lesquels nécessitent par exemple une chirurgie et lesquels vont nécessiter un suivi, je dirais tout simplement, même si c'est loin d'être simple ?
Comme on l'a dit, en fait, les cas que nous recevons, sur le plan médical, on a différents types de lésions. Donc, comme on l'a dit, par exemple, dans les 72 heures, en général, nous allons traiter la partie médicale, mais aussi on a des lésions sur le plan de l'organe génital. Et donc, ces lésions-là, nous les décrivons en fonction de l'âge. Donc, on a des lésions qu'on va retrouver chez les adultes, des lésions qu'on va retrouver chez les enfants. Et par exemple, avec la classification de Mukwege, nous pouvons en fait classifier les différentes lésions des organes génitaux des enfants de moins de 5 ans en 4 grands types. Et donc, le type 1, qui va être prise en charge seulement sur le plan médical, on va donner des antibiotiques, on va donner des antiseptiques et on surveille l'enfant en plus de toute la partie psychologique qui va suivre. Alors que quand on a à partir du type 2 jusqu'au type 4, le type 4 c'est là où on a même des intestins en fait qui ressortent dans l'organe génital de l'enfant, donc le plus grave, ça c'est des types qui vont nécessiter vraiment des interventions, d'abord des préparations, puis des interventions chirurgicales très, très compliquées et spécialisées qui vont être faites au cours du temps. Après, il y aura tout aussi un suivi parce que c'est un enfant qui va être opéré, par exemple, à 4 ans, qui va être opéré à 5 ans, et docteur Alumeti pourrait me compléter. Après, il y a toute la question du devenir, que ce soit gynécologique ou obstétrical de cet enfant, qui reste en fait des questions qui nous demandent de faire des suivis assez continus par rapport à ça. Après, pour les adultes, en fait, on a aussi tout autant des lésions qui vont des déchirures du premier degré jusqu'au quatrième degré et qui vont aussi s'échelonner. Et là, on va, comme je l'ai dit, vraiment tous les premiers degrés sont pris en charge médicalement. Les infections, c'est médicalement, mais toutes les autres lésions vont être prises en charge sur le plan chirurgical. À côté de cela, bien sûr, on va avoir aussi d'autres problèmes associés. C'est pourquoi quand on parle même sur le plan médical, la personne ne vient pas comme victime seulement de violences sexuelles, mais il y a aussi tout l'impact en fait de ce choc que la personne a reçu.
Donc vous étiez en train de nous dire qu'il y avait bien sûr le constat sur le corps, mais il peut y avoir d'autres problèmes créés par tout ce qui a été subi.
Oui, exactement. Les femmes qui vont nous arriver en fait au-delà de 72 heures ou les jeunes filles avec déjà des grossesses, où nous devons en fait d'abord faire des counseling pour qu'ils acceptent cet état de grossesse, faire le suivi de la grossesse et jusqu'au niveau de l'accouchement et comment accompagner cette jeune fille, cette femme avec ce bébé qu'elle va avoir ou qu'elle a dans les jours qui vont arriver. Il y a tout le problème du VIH qui est là parce qu'on a à peu près 2% en fait des femmes qui vont contracter le VIH. Et donc, il y a des choses en fait au-delà de la partie strictement VVS qui vont être associées à cela et que nous allons aussi suivre. Un problème de malnutrition. On a trouvé que des femmes qui vont être rejetées, elles arrivent ici 2 mois après. Et donc, elles n'avaient plus rien à se nourrir et tout. Elles viennent dans un état de dénutrition totale. Et donc, il faut vraiment la reconstituer au-delà, en fait, de tout ce qu'on peut dire strictement violence sexuelle. Il y a toute cette autre panoplie de problèmes physiques qui vont s'associer à cela.
Docteur Alumeti, pédiatre, médecin légiste, donc, en tant que médecin légiste, vous constatez, est-ce que vous expliquez aussi aux femmes ?
Au fait, Caroline, je crois que c'est ça notre travail. Hein. Donc, pour moi, j'ai toujours dit qu'une victime de viol et violences sexuelles, c'est une malade spéciale. Spéciale dans le sens qu'il y a d'abord des lésions physiques ou somatiques, mais nous avons aussi des lésions extrasomatiques et psychologiques. Et donc, notre rôle, c'est vraiment expliquer. J'ai dit encore que ce sont des femmes ou des malades spéciales, dans le sens que le stress post-traumatique peut être seulement à la base de tout ce que la victime présente. C'est vrai, nous avons eu des lésions graves, des traumatismes graves, des enfants de moins de 5 ans qu'on a essayé de typer, comme l'a dit docteur Néné, et qui nous ont poussé à faire de la chirurgie réparatrice chez ces enfants-là. Et nous avons eu des résultats qui ont été publiés, mais nous ne connaissons pas l'avenir génital de ces enfants-là. Donc, tout ce que nous faisons passe par les explications. On va expliquer à l'accompagnant, qui très souvent, c'est la mère qui partage les mêmes traumatismes avec son enfant de 18 mois. Imaginez-vous un enfant de 18 mois qui est violé. Vous la trouvez sur le lit. Je peux dire entre guillemets, elle n'a rien, mais le traumatisme est transféré à la maman. Et donc là, il faut bien expliquer. Il faut prendre en charge physiquement l'enfant, mais nous prenons aussi en charge psychologiquement la mère ou l'accompagnant. Ce n'est pas un travail facile, mais ça nous donne des résultats parce que nous travaillons dans ce que nous appelons la multidisciplinarité. Là où je suis dépassé comme médecin légiste, parce que peut-être je n'ai pas les mots, je me fais accompagner par les psychologues. Là où ça demande de la chirurgie, comme chirurgien pédiatre, ce sont des enfants qu'on amène au bloc opératoire, qu'on opère, et comme Denis l'a décrit, il y a des lésions qui demandent de la haute chirurgie, et nous les faisons. Ce qui est important de dire, Caroline, c'est que si cet aspect n'est pas considéré, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, vous voyez des femmes de plus de 90 ans, c'est aujourd'hui qu'elles dénoncent qu'elles ont été victimes de viols et violences sexuelles. C'est parce qu'il y a un aspect qui a été négligé. Donc, elle a gardé tout cela pendant 90 ans. Imaginez-vous la souffrance endurée. Quelqu'un qui a été violé à l'âge de 12 ans, mais c'est seulement à 90 ans qu'elle ose dire que j'ai été victime de viols et violences sexuelles. Donc, elle a fait plus de 72 ans de souffrance. Vous vous imaginez cette peine? Et s'il faut comparer, par exemple, la performance de cette femme, que ce soit intellectuelle, que ce soit physique, avec une fille de 12 ans qui a vécu une vie normale, vous trouverez que la performance n'est pas la même. Voilà pourquoi on explique, on sensibilise pour que la victime puisse intégrer et se dire en dehors ou en plus de ce que j'ai subi, la vie est toujours en face de moi. Et c'est à partir de ces explications que nous aboutissons à tous les résultats qui sont aujourd'hui publiés et décrits. C'est ce qui fait même la grandeur de l'hôpital des Pensées. Et toute cette génie, c'est bien sûr la multidisciplinarité, mais je crois aussi que c'est l'inspiration du docteur Mukwege. Et nous pensons que nous ne pouvons pas rester avec cette expertise. Voilà pourquoi nous sommes là, pour faire l'essaimage.
Et la partager. Alors l'écoute, voilà. La réparation, je vous propose tout de suite de vous rendre dans le bloc opératoire avec, pour nous guider, le docteur Mayele, chirurgien vaginal. Il est demandé d'enlever les chaussures, mais là, comme il n'y a pas d'opération aujourd'hui, je peux y aller comme ça?
Non, il y a les chaussures juste là.
Ah, les chaussures, on va les mettre.
Ah, d'accord.
Donc c'est des petits sabots roses, on va les enfiler voilà. Tout de suite. C'est la même règle pour tout le monde.
Hop.
Donc là, si on entend un petit bruit, c'est le bruit de mes sabots. Donc là, on entre dans le bloc opératoire. Alors, vous allez me décrire, on voit des lampes vertes, on voit deux tables avec des étriers et puis un paravent.
Oui, il y a un paravent pour séparer les deux malades qui sont opérés à l'intérieur, parce que ça, c'est juste tenir compte de l'intimité de la femme, quoi.
Il se peut parfois qu'il y ait deux femmes opérées en même temps.
Oui, il y en a deux femmes peuvent être opérées au même moment. Et c'est ça d'habitude ici, parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent, et la plupart, ce sont des urgences. Et quand c'est une urgence, on est obligé d'y aller. Et dans ce cadre, quand même, on a prévu ce paravent, parce qu'au moins, si elle est sous anesthésie, elle sait contrôler de quoi il s'agit, elle peut voir l'autre de l'autre côté. Surtout la chirurgie que l'on fait en cellier, c'est une chirurgie vaginale, et dès que l'on a donné une rachianesthésie, la femme reste consciente, et elle peut parler avec les anesthésistes, elle peut parler avec tout le monde. Donc, dès qu'elle voit l'autre de l'autre côté, c'est pas aussi bon. C'est pourquoi on a mis le paravent au milieu.
Alors, on voit les ballons, là, c'est pour justement quand il y a des difficultés respiratoires. On voit tout le matériel, stéthoscope, les ciseaux, tout ça est prêt. Si une femme arrive, vous êtes prêt à opérer?
Oui, dès qu'une femme arrive, on est prêt à opérer. Et la plupart des matériels trop sensibles, on les garde dans la chambrette qui est fermée aujourd'hui.
Est-ce que vous diriez qu'ici, vous avez tout le matériel nécessaire pour faire face justement aux cas qui arrivent, aux femmes qui sont admises en situation d'urgence, et là en particulier des urgences gynécologiques?
Oui, pour les urgences gynécologiques, oui, on peut dire qu'on a l'essentiel, mais on ne peut pas dire qu'on est arrivé au niveau des pays développés. Non, on n'est pas à ce niveau-là.
Ce que vous opérez le plus souvent, ce sont quoi? La réparation des fistules ou la réparation, on va dire, des vagins qui ont été déchirés, abîmés par des violences?
En fait, nous avons trois catégories de malades qui arrivent ici. Il y a les malades victimes des violences sexuelles, chez qui tous les périnées sont délabrés, voire même ils sont, celui qui a là endommagé peut même enfoncer un matériel tranchant dans le vagin jusqu'à perforer les Douglas. et voire même l'aisance intestinale. Et c'est une catégorie des malades. Il y a aussi une autre catégorie des malades, ce sont les malades qui viennent avec des fistules traumatiques post-accouchement. Mais aussi, il y a des maladies, des pathologies gynécologiques.
Vous disiez tout à l'heure, des fois, les atteintes sont tellement profondes que donc l'appareil digestif est touché. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut faire appel à des chirurgiens digestifs en plus ?
Oui, et là, on fait une chirurgie multidisciplinaire. Donc, on peut amener un gynécologue, un urologue, mais aussi un chirurgien digestif.
Est-ce que c'est vous personnellement, quand vous opérez une patiente, est-ce que vous allez vous présenter à elle ? Est-ce que vous lui dites, madame, c'est moi qui vous opère ?
En fait, ça dépend de l'état dans lequel il est arrivé. Il y a des malades qui arrivent inconscientes. Et quand elle arrive inconsciente, on ne sait pas l'expliquer. Mais dès que elle est lucide, quand elle arrive, elle est lucide, dans ce cadre, on doit l'expliquer. On lui montre qu'est-ce qu'on va faire. Elle signe même une fiche de consentement. Et on l'explique qui va l'opérer, comment et quels seront les résultats après.
Quand on soigne comme ça des femmes au quotidien, est-ce que ça change l'image qu'on peut avoir de ces femmes ?
En fait, l'image que j'ai de la femme moi-même, je trouve que la femme a un grand pouvoir de résister à des choses difficiles. Parce que beaucoup de femmes qui passent ici, elles entrent dans un état critique, que ce soit sur le plan médical, chirurgical, psychologique. Mais quand elles sortent, tu la vois, elle est toute nouvelle.
Vous avez de l'admiration pour ces femmes ?
Beaucoup d'admiration. La femme, quand je la vois, elle est formidable.
Ouais. Nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission enregistrée ici à Bukavu, hein, au sein de l'hôpital de référence de Panzi dans l'est de la République démocratique du Congo, Priorité Santé, toujours en notre compagnie, docteur Désiré Aloumeti, Séraphine Nkwaniné, et puis vous, docteur Néné, gynécologue. Quand on parle de chirurgie réparatrice, on parle de quoi exactement ?
Quand on parle de la chirurgie réparatrice, en fait, chez la femme, c'est essayer de remettre les choses dans leur état normal. Parce que quand il y a ce délabrement, cette sauvagerie en fait qui abîme l'organe génital de la femme, la chirurgie réparatrice, c'est celle qui va nous permettre à ce que la femme puisse reprendre sa fonction, en fait, que ce soit la fonction génitale normale, que ce soit la fonction de copulation normale, donc faire en sorte que chaque chose revienne plus ou moins à sa place. Il y aura toujours les cicatrices parce que on ne va pas effacer totalement ce qui s'est passé, mais au moins on peut repermettre à la femme d'avoir une vie normale, que ce soit sur le plan gynécologique, que ce soit sur le plan obstétrical, pour qu'elle ait une vie tout à fait normale dans la communauté. Si elle a un conjoint et que les relations se passent tout à fait normalement, en fait, c'est ça les objectifs de la chirurgie de la réparation. On essaie de fermer tout ce qu'il y a comme lésion, tout ce qu'il y a comme blessure, tout ce qu'il y a comme trou, donc de séparer en fait ce qui doit être séparé, parce que parfois on a en fait des lésions où on voit c'est vraiment un trou, et que ce soit la partie de l'appareil de l'urine, que ce soit le rectum en bas et l'organe génital, tout est confondu en fait en un gros trou, et donc on doit pouvoir faire encore la part des choses pour lui redonner en fait cette dignité. Elle peut s'asseoir parmi les gens sans avoir peur de perdre les urines, sans avoir peur de perdre les selles, n'est-ce pas, sans se dire comment est-ce que je veux faire. Elle peut avoir ses règles mensuellement, normalement, sans que ceci ne passe par les urines. Donc il y a tout ça en fait qui nous permet de remettre en fait plus ou moins la normalité de la chose. C'est ça, en fait, la chirurgie réparatrice.
Je vous pose la question, chez les enfants, docteur Aloumeti, une telle dévastation, là, on parle parfois de femmes qui avaient une vie sexuelle avant, qui savent ce qu'est l'amour, qui savent parfois même ce qu'est le plaisir. Mais là, chez des enfants, comment on leur redonne une vision de ce que pourra être demain avec ce corps qui a fait tellement mal, avec ces hommes qui ont fait tellement de mal aussi?
En fait, Caroline, je crois que c'est difficile. C'est vraiment difficile dans le sens que les périnées délabrés, totalement délabrés chez un enfant de 5 ans, moins de 5 ans, c'est vrai. Nous arrivons à les réparer, nous donnons un aspect cosmétique, comme l'a dit Dr Néné. Je dirais que l'avantage, c'est pour ces enfants-là, parce que elle n'a pas encore intronisé tout ce qui se passe. Elle ne connaît pas d'emblée ce qu'on peut dire copulation, elle ne connaît pas. Donc, notre chirurgie réparatrice à ce niveau-là, c'est de reconstituer l'appareil génital, l'appareil digestif et l'appareil urinaire. Parce qu'on a vu des enfants qui ne pouvaient plus maintenir les selles, ne pouvaient plus maintenir les urines. Donc, tout passe au travers un seul orifice. Et à notre niveau, nous faisons une reconstitution pour séparer, tant soit peu, ces différentes structures anatomiques. Et là, ça redonne quand même un aspect cosmétique acceptable. Mais la grande question que nous nous posons, c'est l'avenir génital. Un enfant qu'on a opéré, par exemple, à l'âge de 5 ans, moins de 5 ans, à 18 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà pourquoi nous continuons à le suivre. C'est encore grave, comme Dr Néné l'a dit, chez une femme. Imaginez-vous, Caroline, vous étiez avec votre mari, quelqu'un était avec son mari, elle a été violée, on a délabré le périnée. Si elle n'est pas traitée, vous voyez ce que ça fait lorsque elle sera avec son mari. Ça devient encore le problème de stigmatisation. Et voilà pourquoi je crois que ceux qui appellent l'hôpital des Panzi ont son directeur comme étant l'homme qui répare les femmes. C'est ça,
ça prend tout son sens.
Ça porte tout son sens. La réparation, elle est physique. C'est la chirurgie que nous faisons, la chirurgie réparatrice. Et elle est aussi psychologique. Donc quand on dit l'homme qui répare les femmes, hôpital qui répare les femmes, on voit l'aspect chirurgical et on voit l'aspect psychologique pour rendre encore nos femmes plus solides. Et je crois que cette expérience que nous essayons de semer partout où la femme a été meurtrie, a été détruite psychologiquement et physiquement. Mais je vous dis que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident.
Est-ce que travailler ici, Séraphine Nkwanine, ça vous a changé votre regard sur le monde? Est-ce que ça a changé votre regard sur les hommes?
Oui, ça a changé mon regard sur le monde, même sur les hommes. Puisque moi, je trouve que je me demande si un homme arrive à violer un enfant tel que je le vois là en bas, un enfant de moins de 10 ans. Et quand je compare à moi-même en tant que femme, je trouve vraiment que c'est un peu... C'est difficile d'expliquer. Puisque le corps d'un homme avec un petit enfant, dire qu'un homme peut réellement accepter de faire ça chez un enfant, je ne sais pas quel nom je peux lui donner. Ça a changé mon regard. Ça a changé mon regard puisque quand j'essaie de penser, je trouve que ceux qui font ça, vraiment, ce n'est pas un homme digne d'être appelé homme. Je le prends comme un animal. Vous allez m'excuser d'utiliser les mots là, puisque nous recevons des enfants qui ont été violés par leur père. Nous avons des enfants qui ont été violés par les amis. Mais quand vous trouvez l'enfant, comment l'enfant a pu supporter cette douleur-là? Ça fait très mal aussi au cœur. Et souvent, quand tu arrives chez soi, on se demande... Ah, on rentre à la maison avec des idées, en train de raisonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur de faire ça? Et nous, comme nous avons des enfants, maintenant là, on compare nos enfants et l'enfant là que vous avez pu assister la journée, on trouve vraiment que c'est un peu...
Inhumain.
Vraiment.
C'est inhumain. Et docteur Néné, justement, on parle de crimes de guerre, on parle de violences associées au conflit, mais il faut le souligner, il n'y a pas que les miliciens, il n'y a pas que les militaires, il y a les villageois, il y a, je ne vais pas dire monsieur tout le monde, mais il y a des pères, c'est civil. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une forme de contagion au sein de la société, au sein de cette société congolaise? Je ne vais pas parler de banalisation parce qu'avec ce qu'on vient d'entendre, ça lève le cœur. Hein. Des fois, on écoute ces récits, on a les larmes, on tremble, c'est insupportable. Mais pourquoi ça se passe dans les maisons? Pourquoi?
Moi, personnellement, ça me révolte, en fait. Cet état de choses me révolte parce que nous faisons face à une totale impunité. Et cette totale impunité fait que tout le monde pense qu'être fort, c'est violer. Être riche, maintenant, chacun peut fomenter du n'importe quoi. On a vu, en fait, des gens qui disaient, pour être riche, il faut violer une petite fillette de moins de 5 ans. Tu vois, il y a maintenant des choses que les gens se permettent, déjà même rien qu'en penser, n'est-ce pas, ou à y croire, à cause justement en fait de cette impunité auquel on a fait, à laquelle on a fait face.
On peut pas toujours mettre ça sur le dos du manque d'éducation, des fausses croyances. Il y a aussi la rationalité, c'est n'importe quoi.
En fait, c'est ça en fait. Quelque part, c'est comme dit Maman Kwanine, on se dit, ok, c'est vrai que tu as totalement raison pour dire, ok, on va dire c'est irrationnel, c'est quelqu'un devrait quand même réfléchir. Un père devant sa petite fillette, il devait quand même réfléchir et avoir. Et là, on va se dire, est-ce que c'est des êtres humains comme nous? Est-ce qu'ils sentent la douleur comme nous? Est-ce qu'ils ont autant d'émotions comme nous? Ils aiment ces enfants-là comme nous? Parce que même quand Maman Kwanine dit, c'est comme des animaux. Moi, je pense qu'on est plus pire que les animaux. Parce qu'on ne verra jamais une poule piétiner, rien que piétiner, en fait, son petit poussin. Ça ne se fait jamais. Jamais, au grand jamais. On ne verra jamais un animal qui va prendre son petit. Jamais, ça ne se fait. Mais chez nous, on constate que les proies deviennent nos propres enfants. Et ça, c'est des êtres humains. Non, on n'a pas le nom, en fait. Ils n'ont même pas le droit d'être appelés animal. En fait, ce serait quand même leur donner un poids. Donc, je ne sais pas, en fait. Quelque part, moi, je me sens totalement dépassée, révoltée. Et, en fait, moi, sincèrement, comme mère, ce sujet-là, ça me dépasse. Parce que je n'y comprends absolument rien par rapport à ça.
Docteur Alumetti, pour le mot de la fin. On dit que les gens qui travaillent ici sont féministes. Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement humains?
En fait, je crois que c'est d'abord ce que vous dites là-bas. Nous sommes humains. Et à force de travailler avec les femmes meurtries, on devient peut-être féministe. Donc, on commence d'abord par être humain. Parce que je dois vous dire, hein, je travaille dans pas mal d'hôpitaux. Mais je pense que ce qui se passe ici, c'est vraiment de l'humanisme. Et à un certain moment, on devient tant soit peu protecteur de la femme. On doit protéger la femme.
Mais de la compétence aussi. C'est justement cette association des deux, d'avoir un savoir technique, un savoir psychologique et aussi une capacité d'empathie énorme.
Oui, c'est ça. Donc, comme vous avez constaté, c'est un hôpital où d'abord, c'est la compétence qui prime. C'est la compétence. Tous ceux qui sont ici, je ne peux pas être contredit par qui que ce soit. Ils sont parce qu'ils sont compétents. Et avoir maintenant ce que nous faisons, on est transformé en féministe et beaucoup plus humaniste. Donc c'est un hôpital, je dirais même, humanitaire. Voilà.
Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci tous les trois, ainsi que toute l'équipe de l'hôpital, comme les patientes, bien sûr, qui ont bien voulu témoigner, nous parler. Merci infiniment, Madame Séraphine Kwanine, infirmière au sein de cet hôpital de Panzi. Merci à vous, docteur Néné, médecin résidente en gynécologie, experte dans la réplication du modèle Panzi. Et vous, docteur Désiré Alumetti, chirurgien pédiatre, médecin légiste.
Merci, Caroline. Bienvenue encore une fois.
Ça fait plaisir. Merci. Et merci à tous pour votre accueil ici à l'hôpital de Panzi, où nous vous retrouvons demain pour une autre émission consacrée cette fois à la prise en charge psychosociale des femmes victimes de violences sexuelles. Demain, on va parler de cette prise en charge plurielle. On va y revenir, faire face au traumatisme, s'engager dans la reconstruction psychique, envisager la réinsertion, santé mentale, reconquête de l'estime de soi, préparer l'avenir. On se retrouve demain avec l'équipe de Priorité Santé, Ophélie Lassen, qui a coordonné et préparé ces émissions, Richard Rifono à la réalisation. Bonne journée à vous, portez-vous bien et à demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Mondo.